de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Iran commémore la révolution islamique en exigeant d'expulser Israël de l'ONU. Croix-Rouge indonésienne, PMI, fournit des services de santé mobile aux réfugiés de Gaza. Comité de surveillance des élections de Tokyo vérifie par couche pour prévenir toute fraude potentielle. Police nationale exhorte la communauté à maintenir l'unité et l'union avant le scrutin électoral de 2024. Élections indonésiennes en Australie suscitent l'admiration. Comité électoral à l'étranger, Tokyo, a préparé 3500 bulletins de vote pour les électeurs inscrits sur une liste spéciale. Effort du gouvernement pour renforcer la stabilité des prix alimentaires. Mon cher auditeur, voici les nouvelles complètes. L'Iran a commémoré le 45e anniversaire de sa révolution islamique avec une cérémonie dimanche 11 février. Dans cet avertissement, le président Ebrahim Raisi, cité par la AFP, a condamné Israël pour la guerre à Gaza et a exigé que le pays soit expulsé de l'ONU. Le soutien à la cause palestinienne et les critiques sévères à l'égard des États-Unis, souvent surnommé le Grand Satan. En Iran et d'Israël, ont dominé le service commémoratif depuis la révolution iranienne de 1979 qui a renversé le Shah Mohammad Reza Pahlavi soutenu par les États-Unis, les principales puissances musulmanes chiites de la région entretiennent des relations extrêmes hostiles avec Israël, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les tensions se sont accrues depuis le déclenchement de la guerre la plus sanglante à Gaza le 7 octobre, avec l'attaque du groupe militant palestinien Hamas contre Israël, ce qui a déclenché des violences entre le groupe militant soutenu par l'Iran et les forces américaines. La Croix-Rouge indonésienne PMI collabore avec l'Institut d'aide médicale de Gaza pour fournir des services de santé mobile et porte-à-porte de tente à tente. Cité dans le communiqué officiel de PMI reçu dimanche 11 février, le chef du siège de PMI, qui est également chef de l'équipe de mission humanitaire de PMI pour Gaza, Arifin Mohamed Hadi, a déclaré que le service de santé mobile vise à aider les réfugiés palestiniens qui sont malades pour avoir accès à un traitement médical. Arifin a expliqué que l'objectif de la première phase des services de santé mobile de PMI était de 1 000 patients. Une fois l'objectif atteint, PMI continuera à fournir ses services de santé et ciblera plusieurs autres abris d'urgence. Selon lui, cette approche de services de santé mobile est très efficace étant donné que le nombre d'hôpitaux en activité diminue, tandis que la capacité d'accueil des patients dans les hôpitaux existants est également très limitée. Le comité de surveillance des élections de Tokyo, Pan Waslu, met en œuvre des contrôles à plusieurs niveaux pour minimiser le potentiel de fraude dans le processus électoral dans la région de Tokyo au Japon. Cité par Antara dimanche 11 février, le président du comité de surveillance des élections de Tokyo, Mohamed Arif, le bureau d'élections de Tokyo a déclaré qu'avant de voter le jour, des contrôles de données à plusieurs niveaux avaient été effectués au bureau d'élections afin que personne ne puisse prétendre être quelqu'un d'autre. Mohamed Arif a révélé qu'avant le vote, son parti avait procédé à une sensibilisation sur les formes de violation et leurs sanctions. Il a ajouté que son parti a également effectué des contrôles au KPU, aux commissions électorales indonésiennes, pour supprimer les données en double au Japon et en Indonésie via le système SIDALI. La Direction générale de la police nationale ainsi que les rangs de la police régionale ont cartographié les vulnérabilités potentielles en matière de sécurité sociale et géographique dans la mise en œuvre de l'opération Mantap Bharata 2024 afin de sécuriser les élections de 2024. Chef de division des relations publiques de la police nationale, l'inspecteur général de la police, Sandy Nugroho, dans sa déclaration écrite dimanche, a déclaré que la sauvegarde des vulnérabilités dans l'opération Mantap Bharata 2024 est prévue avec des modèles préemptifs et préventifs proposés. Sandy a déclaré que jusqu'à présent, la sécurité et l'ordre public ont été favorables, car la collaboration et la coordination avec tous les éléments de la société se sont bien déroulés en outre, a déclaré Sandy. La police nationale a reçu la responsabilité de soutenir la tenue des élections de 2024 de manière sûre, pacifique et digne. Il a également assuré que la police nationale, l'armée nationale indonésienne et toutes les composantes de la nation n'étaient prêtes à maintenir la sécurité du processus électoral jusqu'à son achèvement. Le président du comité électoral à l'étranger de PART PPLN, Edi Nuryatno, a déclaré que les observateurs des diverses universités australiennes ont apprécié la mise en œuvre des élections de 2024. Edi Nuryatno a déclaré à RRI.co.id dimanche 11 février qu'un général des observateurs ont été étonné par le processus démocratique en Indonésie. Les citoyens indonésiens vivant à l'étranger ont leur droit de vote protégé par la présence du comité électoral à l'étranger. Edi Nuryatno a déclaré que les observateurs estimaient que l'Indonésie était considérée comme capable d'organiser des élections pacifiques parmi tous les représentants indonésiens dans le monde. Au total, 6450 citoyens indonésiens sont inscrits sur la liste permanente des électeurs étrangers d'Australie. Ils votent soit par voie postale, soit en se présentant directement au bureau de vote. Le vote dans l'État d'Australie occidentale s'est déroulé au Perth Expo and Exhibition Center avec 17 bureaux de vote ouverts. La décompte des voix sera annoncée le 14 février à 14h heure locale. tandis que le décompte des voix par voie postale sera annoncé le 17 février 2024. Le comité électoral à l'étranger PPLN à Tokyo, au Japon, a fourni environ 3500 bulletins de vote pour la liste électorale spéciale afin d'anticiper le grand nombre d'électeurs lors du vote du 11 février 2024, cité par Antara dimanche 11 février. Les membres du PPLN Tokyo Makmur Lubis au bureau de vote à Tokyo ont déclaré que si l'on ajoutait les bulletins RTS au retour à l'expéditeur, cela serait suffisant car son parti dispose d'environ 3500 bulletins de rechange. Il a également expliqué que les bulletins de vote RTS étaient des bulletins qui avaient été envoyés par la poste aux électeurs potentiels, puis renvoyés au PPLN Tokyo, parce que le destinataire n'habitait plus à cette adresse. Pendant ce temps, le DPK, ou la liste de voteurs, est une liste de citoyens qui ont le droit de vote, mais qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale permanente au TPS de Tokyo. Les nouveaux électeurs du PDK sont autorisés à exercer leur droit de vote de 16h à 18h heure locale. Le vote au Japon s'effectue selon deux méthodes, TPS et par correspondance. Le gouvernement, à travers l'Agence nationale indonésienne à l'alimentation, Bappanas, veille à renforcer la stabilisation des prix et les réserves alimentaires de l'Indonésie. Directeur de la distribution alimentaire et des réserves de Bappanas, Rahmi Widiriani, a déclaré à Pro 3 de la Radio République Indonésia dimanche 11 février que la production nationale ne devrait pas connaître de pertes, s'assurer qu'il n'y a pas de pertes et le devoir de Bulog et de l'entreprise d'État BOMN. Rahmi a admis que les difficultés rencontrées par le gouvernement pour maintenir la stabilité des prix et les stocks alimentaires se sont produites pendant les longues vacances. Pendant les longues vacances, le gouvernement doit renforcer la gestion des stocks alimentaires. Bon, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre, le projet de Netanyahou d'attaquer Rafah renforce l'épreuve du génocide. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, CSNU, samedi 10 février, lorsqu'Israël se prépare à lancer une opération terrestre à Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza. Dans son communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a mis en garde contre les dangers provoqués par l'attaque contre Rafah dans la bande de Gaza, dernier refuge de centaines de milliers de civils déplacés. L'Arabie saoudite a également souligné la nécessité pour le Conseil de sécurité de l'ONU de tenir une réunion extraordinaire pour empêcher Israël de déclencher une catastrophe humanitaire. Par ailleurs, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, s'est déclaré samedi 10 février préoccupé par l'attaque terrestre prévue par Israël contre la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Sur le compte des réseaux sociaux X, Cameron a également ajouté que la priorité devrait être de suspendre les combats le plus tôt possible pour acheminer l'aide et sauver les otages. Selon lui, cette étape doit également être suivie d'efforts en faveur d'un cessez-le-feu durable et permanent. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné vendredi 9 février aux forces armées israéliennes d'élaborer un plan pour évacuer les civils de la ville surpeuplée avant une offensive visant à éliminer les quatre bataillons restants du Hamas. Le projet d'attaque de Rafah augmentera encore le nombre de victimes de la guerre. Ce plan montre clairement la ferme volonté d'Israël d'éliminer le peuple palestinien de la surface de la terre ou de commettre un génocide. Rafah est devenu le dernier refuge pour les Palestiniens fuyant la guerre. Actuellement, 1,4 million de Palestiniens y ont trouvé refuge. L'attaque prévue contre Rafah renforce également les accusations de génocide d'Israël contre la Palestine. En fait, selon la décision de la Cour internationale de justice, Israël est obligé d'empêcher des actions pouvant être qualifiées de génocide en Palestine. Israël doit également traiter et punir ceux qui appellent au génocide en Palestine et faciliter l'entrée de l'aide humanitaire en Palestine. Il est regrettable qu'Israël semble ignorer la Cour internationale de justice sans aucune sanction. Il est approprié que le monde, en particulier l'ONU, agisse pour que les atrocités et les génocides commis par Israël contre le peuple palestinien cessent le plus rapidement possible. C'est Jurita, c'est le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui. Et nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec le 12 février 2042. L'armée japonaise a annoncé que la ville de Banjarmasin avait été remise au PPC. Avec l'approbation du maire de Banjarmasin, Ash Muldar, le peuple indonésien de Banjarmasin a formé un gouvernement temporaire appelé PPC. La direction du gouvernement civil PPC était le chef temporaire du gouvernement du Kalimantan du Sud et de ses environs, remplaçant le poste vacant au sein du gouvernement des Indes néerlandaises avec l'arrivée de l'armée japonaise en février 1942. Depuis le 11 février 1942, le président du PPC tente de prendre contact avec l'armée japonaise. Les dirigeants de l'armée japonaise ont demandé que le PPC procède en première afin que la paix et l'ordre puissent à nouveau être maintenus. En attendant l'arrivée des principales troupes japonaises à Banjarmasin, le 12 février 1942, la force principale arriva à Banjarmasin et des négociations auront lieu avec le PPC. Le Japon a demandé qu'un gouvernement civil provisoire soit immédiatement formé, dont les membres seraient des Indonésiens, pas seulement pour la ville de Banjarmasin, mais pour toute la région. Le PPC a son bureau dans l'ancien bureau du gouvernement Aga, ancien gouverneur de Bornéo. Le 12 février 1942, le Japon publia une proclamation remettant le gouvernement au PPC. Ensuite, Rizzi a été nommé chef à part entière de suprême du gouvernement civil de cette région, à savoir le prince Moussa Hardi Kessouan. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui par le 12 février 2002. Le processus de l'ancien président de la République fédérale de Yougoslavie, Slobodan Milosevic, a commencé devant le tribunal pour crimes de guerre de l'ONU à La Haye. Le 12 février 2002, l'ancien président Yougoslavie, Slobodan Milosevic, a subi son premier procès à La Haye, aux Pays-Bas. Celui que l'on surnommait le boucher des Balkans a été accusé de génocide et de crimes de guerre en Bosnie, en Croatie et au Kosovo. Pendant presque tout le procès, Milosevic a été son propre avocat jusqu'à ce que le processus se termine sans verdict. La raison en est que Milosevic a décédé dans sa cellule à l'âge de 64 ans le 11 mars 2006, apparemment des suites d'une crise cardiaque. Milosevic a été président de la Yougoslavie de 1997 à 2000. Après avoir quitté ses fonctions, Milosevic a été accusé de corruption et d'abus d'autorité. Il est également rendu aux forces de sécurité serbes le 1er avril 2001, après avoir été encerclé par la police pendant 26 heures. En juin 2001, Milosevic a été extradé vers les Pays-Bas pour y être jugé devant le tribunal des crimes de guerre de l'ONU. Mon cher Gétard, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Engkaulah cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Di sisimu aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Janjiku takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby, 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 I want you to know.
Voilà la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la brique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Le ministre de l'Industrie apprécie les modificateurs automobiles locaux pour emmener l'innovation et la culture indonésienne sur la scène mondiale ». Le ministère de l'Industrie a exprimé son appréciation pour les réalisations de l'Association nationale de modification et de réchange, NMAA, qui a participé à l'exposition de modification d'Osaka Automesse, OAM, au Japon, du 10 au 12 février 2024. Outre que la présentation de produits créatifs et innovants, la participation des acteurs locaux de l'industrie de la modification à l'événement international a également pour mission de présenter la culture indonésienne. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a expliqué dimanche 11 février à Jakarta que l'industrie de la modification automobile, qui est de plus en plus répandue à l'heure actuelle, a apporté une valeur ajoutée et des effets multiplicateurs pour le développement de l'industrie des composants automobiles de récence dans le pays, surtout les petites et moyennes industries, PMI. En soutenant le développement de l'industrie des véhicules modifiés dans le pays, le ministère de l'Industrie a lancé la publication des normes nationales indonésiennes de compétences professionnelles, SKKNI, pour l'industrie des véhicules modifiés. Un programme de formation basé sur les compétences pour l'industrie de la modification a également été préparé. Le ministère de l'Industrie espère que l'Association nationale de modification et de réchange en tant qu'association de l'industrie de la modification pourra devenir un institut de certification professionnelle, LSP, pour les services de l'industrie de la modification des véhicules automobiles et devenir un forum d'atelier de conversion de véhicules électriques pour les acteurs commerciaux afin de soutenir le programme de l'Indonésie propre grâce à l'utilisation de véhicules électriques. Le fondateur de l'Association nationale de modification et de réchange, André Mulyadi, a déclaré que l'effort visant à emmener des produits de réchange locaux à l'Osaka Automesse 2024 était l'idée de son association qui vise à renforcer continuellement la collaboration avec des partenaires stratégiques de l'industrie japonaise de la modification. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, la grotte de Lausanne est une attraction touristique unique que l'on ne trouve que dans le Kalimantan oriental. La grotte de Lausanne, qui dans la langue locale signifie la grotte pénétrante, est située sur le Tokut Kalimantan Est, Kalimantan Sud. Précisément dans le village de Batu Butok, sous-district de Muara Komam, région de Pasir, Kalimantan Est. Entrer dans cette grotte, c'est comme plonger dans les entrailles de la terre qui recèle des trésors sous forme de bijoux en pierre naturelle, aux formes uniques, étranges et étonnantes. Chers auditeurs, cette grotte est très large et sinueuse, de sorte que si les touristes souhaitent néanmoins l'explorer complètement, cela prendra environ 10 jours. À l'intérieur de la grotte se trouve également un passage d'un endroit à un autre sous la forme d'une véranda assez large. Parce qu'elle est située au bord de la route, cette zone touristique naturelle reçoit souvent la visite des touristes nationaux et étrangers. Outre l'accès d'un endroit à un autre sous la forme d'une véranda assez large, lorsqu'on entre dans la grotte de Lausanne, c'est comme si l'on entrait dans les entrailles sombres de la terre. Comme il n'y a pas d'éclairage spécial, lorsque vous entrez dans cette grotte, vous devez être guidé par un gardien ou un agent de l'Office du tourisme de Pasir, qui est le peuple autochtone de Pasir ou descendant du fondateur de la grotte de Lausanne. Et surtout, vous devez être équipé avec un éclairage tel qu'une lampe de poche ou une torche. Cet éclairage minimal ajoutera en fait à la sensation d'une aventure difficile et tendue dans la zone de la grotte. Dans la grotte de Lausanne, il y a aussi une source. Les rangées de pierres naturelles dans la grotte peuvent également émettre un son unique et régulier lorsqu'elles sont frappées avec un outil qui ressemble à un instrument de musique traditionnel. C'est pourquoi l'occurrence à cet endroit est également appelée l'Eros Piché. Le nid de Hongdil ajoute également à la beauté et au naturel de la grotte. Les roches formées naturellement et purement constituent l'identité de la grotte de Lausanne dans le Kalimantan oriental. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La grotte de Lausanne dans le Kalimantan oriental ». Demain, nous nous retrouvons avec un autre sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère de l'Éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Solo. Di Solo signifie à solo. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Setiap Tahun. Je répète, Setiap Tahun signifie chaque année. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et Ayu, l'ami de Chris dans la communauté de vlog au Festival du Batik à Solo. Ayu dit à Chris que le carnaval du Batik Solo a lieu chaque année. Écoutons la conversation.
Wah! Karnaval Batik Solo. Banyak orang memakai kostum batik yang unik.
Mereka melewati beberapa jalan utama di Solo.
Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun?
Iya, biasanya setiap bulan Juni.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Setiap tahun, je répète, setiap tahun signifie chaque année. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Apakah? Apakah signifie est-ce que? Carnaval. Carnaval signifie le carnaval. Diadakan. Diadakan signifie avoir lieu. Setiap tahun. Setiap tahun signifie chaque année. Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun? Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun? Signifie est-ce que ce carnaval il a lieu chaque année? Karnaval Batik Solo. Karnaval Batik Solo signifie le carnaval de Batik Solo. Banyak orang. Banyak orang signifie beaucoup de gens. Kostum batik. Kostum batik signifie le costume de batik. Unik. Unik signifie unique. Melewati. Melewati signifie passer. Jalan utama. Jalan utama signifie la route principale. Biasanya. Biasanya signifie habituellement. Bulan Juni. Bulan Juni signifie juin. Dans la conversation, vous entendez la phrase « Apakah karnaval diadakan setiap tahun ?» Apakah karnaval diadakan setiap tahun signifie « Est-ce que ce carnaval il a lieu chaque année ?» Dans cette phrase, il y a une expression « setiap tahun ». Setiap tahun qui indique une activité annuelle, c'est-à-dire une activité qui a habituellement lieu chaque année. Pour exprimer l'activité habituellement effectuée, le mot setiap, setiap signifie chaque, peut être suivi de mots qui expriment des informations temporelles, par exemple hari. Hari
signifie jour. Minggu. Minggu signifie semaine. Bulan. Bulan signifie mois. Et tahun. Tahun signifie année. Dans cette phrase, l'expression setiap tahun signifie chaque année, explique que le carnaval Solo Batik a habituellement lieu chaque année. Écoutons un autre exemple d'utilisation du mot setiap. Setiap signifie chaque pour exprimer une activité habituellement réalisée. Setiap bulan. Setiap bulan signifie chaque mois. Setiap bulan ada pelatihan membatik di Galeri Batik Indonesia. Setiap bulan ada pelatihan membatik di Galeri Batik Indonesia. Signifie chaque mois, il y a une formation de fabrication de batik à la Galerie Indonésienne de Batik. Setiap hari. Setiap hari signifie chaque jour. Chris membuat vlog setiap hari. Chris membuat vlog setiap hari. Signifie Chris réalise des vidéos de blog chaque jour. En 2009, le batik indonésien a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel par UNESCO. Le batik Solo a un motif distinctif qui est différent du batik des autres régions d'Indonésie. Certains motifs de batik Solo incluent le motif kawung, qui a la forme d'une sorte de noix de coco, le motif parang, qui a la forme d'une machette, et le motif truntum, qui a la forme d'une fleur de Tanjung. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Wah, Karnaval Batik Solo. Banyak orang memakai kostum batik yang unik.
Mereka melewati beberapa jalan utama di Solo.
Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun?
Iya, biasanya setiap bulan Juni.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette émission pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
I'm losing my mind without you. what you have been through. You feel so lonely, but you'll still be fine. Time will tell what you need.
Of Indonesia.
Yeah, come on, raise the low and me, my bro, and we'll see that for you.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson intitulée Memilih untuk Indonesia, chantée par le groupe Coklat, qui a été reprise dans une version keroncong par Danica. C'est juste la chanson intitulée « Memilih untuk Indonesia » écrite par Kikan Namara contient une invitation à contribuer à déterminer l'avenir de l'Indonésie et votant. Cette chanson, publiée le 2 décembre 2022 par la Commission électorale de la République d'Indonésie, a un objectif clair, inviter le peuple indonésien à exercer son droit de vote lors des élections générales simultanées 2024. Grâce aux paroles soigneusement sélectionnées de la chanson Memilih untuk Indonesia, le jingle des élections de 2024 devrait enflammer l'esprit de nationalisme et de responsabilité citoyenne pour l'avenir de l'Indonésie. Bonjour, Jétard. Voici la chanson coronjante intitulée Memilih untuk Indonesia, chantée par Danika. Bon écoute.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Au revoir.